Ambrose Bierce, La mort du lieutenant Braille. Le meilleur soldat parmi nous était le lieutenant Herman Braille, l'un des deux aides-de-camp. Je ne me souviens plus où le général l'avait trouvé, dans un régiment de l'Ohio, j'imagine. Aucun d'entre nous ne l'avait rencontré auparavant, et cela eût été étrange, car aucun d'entre nous ne venait du même état, ni même d'états adjacents. Le général semblait penser qu'une position dans son état-major était une distinction qui devait être attribuée judicieusement afin de ne pas susciter de jalousie qui pourrait mettre en péril l'intégrité du pays ou la partie du pays qui avait encore son intégrité. Il ne choisissait même pas parmi les officiers sous son commandement, mais il faisait venir les hommes de brigades extérieures par quelques tours de passe-passe à l'état-major. Dans ces circonstances, il fallait que les états de service d'un homme soient vraiment exceptionnels pour que sa famille ou ses amis d'enfance puissent en entendre parler, et les trompettes de la renommée étaient quelque peu bouchées. Le lieutenant Braille faisait un peu plus de 6 pieds de haut et était magnifiquement proportionné, avec les cheveux clairs et ses yeux bleu-gris qu'on trouve généralement associés, chez ces hommes favorisés par la nature, avec le courage le plus admirable. Comme il était le plus souvent en grand uniforme, particulièrement lors des combats, quand la plupart des officiers se satisfont d'une tenue moins voyante, il attirait à lui tous les regards. De plus, il avait les manières d'un gentilhomme, le cerveau d'un érudit et le cœur d'un lion. Il avait environ 30 ans. Bientôt, chacun d'entre nous se prit à aimer Braille autant qu'il l'admirait, et ce fut avec une inquiétude réelle que, lors de cet engagement à Stones River, la première action après qu'il nous eut rejoints, nous réalisâmes qu'il faisait montre d'un défaut très contestable et fort peu militaire. Il faisait sans cesse étalage de son courage. Pendant toutes les vicissitudes et les événements de cet horrible affrontement, tandis que nos troupes se battaient depuis les champs de coton, les bosquets de cèdres ou derrière le talus de la voie de chemin de fer, pas une seule fois il ne se mit à couvert, si ce n'est quand l'ordre ferme lui en fut donné par le général, qui pourtant avait à penser à d'autres choses que protéger la vie de ses officiers d'état-major, ou d'une façon plus générale, la vie de ses hommes. Ce fut la même chose dans tous les engagements suivants auxquels il prit part. Il restait assis sur son cheval, telle une statue équestre, sous un déluge de balles et de mitrailles, aux endroits les plus exposés, en tout cas partout où son devoir l'appelait et lui permettait de rester, alors que, sans aucune honte, et même pour le plus grand bénéfice de sa réputation de bon sens, il aurait pu se mettre en sécurité durant les brefs moments d'inaction, autant qu'il est possible en tout cas au milieu d'un champ de bataille. Quand il était à pied, que ce soit par nécessité ou par déférence envers ses camarades ou ses supérieurs qui avaient dû quitter leur monture, sa conduite était la même. Il restait debout comme un roc à découvert, alors que les officiers et les soldats se mettaient à couvert. Alors que des hommes plus âgés et plus expérimentés, plus élevés en grade et d'un incontestable courage, préféraient préserver derrière la crête d'une colline des vies infiniment précieuses pour leur patrie, lui restait debout, toujours immobile, faisant face au feu le plus nourri. Quand les batailles se déroulent dans la plaine, il est fréquent que les hommes des deux camps, affrontant leur ennemi pendant des heures à un jet de pierre, embrassent la terre aussi fermement qu'une femme aimée. Les officiers subalternes à leur poste ne s'aplatissent pas moins, et les officiers supérieurs, une fois leurs chevaux tués sous eux ou envoyés à l'arrière, se jettent sur le sol eux aussi, le plomb sifflant et le fer hurlant au-dessus d'eux, sans aucune pensée pour leur dignité personnelle. Dans ces circonstances, la vie d'un officier d'état-major de brigade n'a clairement rien de réjouissant, en raison surtout de la précarité de sa situation et des émotions violentes auxquelles il est confronté. Depuis une position où il jouit d'une relative sécurité, mais dont un civil pourrait dire que c'est un miracle d'en sortir vivant, un simple ordre peut l'envoyer à la recherche du commandant d'un régiment bloqué sur la ligne de front, un individu pas toujours facile à trouver sans une recherche approfondie parmi des hommes qui ont bien d'autres choses à penser et dans un tel vacarme que les questions et les réponses ne peuvent se faire que par signes. Dans ces cas-là, il est d'usage de baisser la tête et de détaler à toute allure, en attirant le regard de quelques milliers de tireurs d'élite admiratifs. Et au retour, eh bien, en général, on ne revient pas. Braille ne procédait pas ainsi. Il confiait la garde de son cheval à une ordonnance, il aimait son cheval, et il s'éloignait tranquillement en marchant pour effectuer sa périlleuse mission, sans jamais courber le dos, sa silhouette splendide, accentuée par l'uniforme, attirant les regards avec une étrange fascination. Nous le regardions en retenant notre souffle, le cœur au bord des lèvres. Dans une de ces occasions même, l'un des nôtres était tellement ému qu'il me cria « Je parie $2 qu'il le descende avant qu'il arrive à ce fossé ». Je n'acceptais pas ce pari indécent, car je pensais qu'il le descendrait, en effet. Mais je veux rendre justice à la mémoire d'un brave. À chacune de ces occasions où il exposait inutilement sa vie, il n'y avait aucune fanfaronnade, et par la suite, il n'en disait pas un mot. Les quelques fois où certains d'entre nous s'étaient aventurés à lui faire des reproches, Braille avait souri plaisamment et avait fait une réponse légère, qui avait toutefois suffi à clore la question. Une fois, il avait dit « Capitaine, s'il m'arrivait jamais de ne pas suivre votre conseil, j'espère que dans mes derniers instants, je serai réconforté par le son de votre voix bien-aimée me murmurant à l'oreille ces précieuses paroles. Je vous l'avais bien dit. » Nous nous moquâmes du capitaine, bien que nous n'aurions pu au juste dire pourquoi. Et cet après-midi-là, quand le capitaine fut haché par le feu d'une embuscade, Braille resta aux côtés du corps pendant un certain temps, ajustant ses membres avec un soin inutile au beau milieu d'une route balayée par les rafales de mitraille. Il est facile de condamner ce genre de choses, et pas très difficile de s'empêcher de les imiter, mais il est impossible de ne pas les respecter. Et Braille n'en était pas moins aimé pour cette faiblesse qui s'exprimait de façon si héroïque. Nous aurions aimé qu'il ne fasse pas ses folies, mais il continua jusqu'à la fin, parfois durement touché, mais retournant toujours à son devoir une fois remis à neuf. Bien sûr, cela finit par arriver. Celui qui ignore les lois de la probabilité affronte un adversaire qui est rarement vaincu. C'était à Resaca, en Géorgie, pendant le mouvement qui amena la prise d'Atlanta. Face à notre brigade, la ligne de terrassement de l'ennemi s'étendait en terrain découvert, le long d'une petite crête. Tenant les deux côtés de la plaine, nous étions tout proches, dans les bois, mais nous ne pouvions espérer occuper le terrain découvert avant la nuit, quand l'obscurité nous permettrait de creuser comme des taupes. À cet endroit, notre ligne se trouvait à un quart de mile en lisière d'une forêt. En gros, nous formions un demi-cercle, la ligne fortifiée de l'ennemi constituant la corde de l'arc. « Lieutenant, allez dire au colonel Ward de s'approcher autant qu'il le peut en restant à couvert et de ne pas gaspiller trop de munitions en feu inutile. Vous pouvez laisser votre cheval. » Quand le général donna cet ordre, nous étions à la lisière de la forêt, près de l'extrémité droite de l'arc. Le colonel Ward était à l'extrémité gauche. La suggestion de laisser son cheval signifiait clairement que Braille pouvait prendre le chemin le plus long, à travers les bois et parmi nos hommes. Et en vérité, cette suggestion était inutile. Emprunter le chemin le plus court, c'était l'absolue certitude de ne pas pouvoir délivrer le message. Mais avant que quiconque puisse s'interposer, Braille s'était élancé tranquillement dans la plaine, et un feu nourri crépita depuis les positions ennemies. « Arrêtez-moi ce satané crétin !» hurla le général. Un soldat de l'escorte, avec plus d'ambition que de cerveau, s'élança à cet ordre, et lui et son cheval tombèrent morts sur le champ d'honneur, à 10 pieds de là. Braille était maintenant trop loin pour être rappelé, galopant tranquillement, parallèlement aux lignes de l'ennemi et à moins de 200 yards de lui. Quelle image il offrait! Son chapeau avait dû être emporté par le vent ou touché par une balle, et sa longue chevelure blonde montait et descendait en suivant les mouvements du cheval. Il se tenait droit sur la selle, tenant les rênes légèrement dans la main gauche, la droite pendant tranquillement à son côté. À l'occasion, on apercevait son beau profil lorsqu'il tournait la tête d'un côté ou de l'autre, et on voyait que l'intérêt qu'il portait aux événements était naturel et sans aucune affectation. La scène était intensément dramatique, mais en aucun cas théâtrale. Successivement, des dizaines de fusils se déchargeaient sur lui quand il arrivait à leur portée. Et bientôt, on put entendre et voir nos propres troupes à l'orée du bois engager un tir défensif, et sans plus se soucier d'eux-mêmes ou de leurs ordres, nos gars sautèrent sur leurs pieds, se jetèrent en masse à découvert et envoyèrent des volées de balles contre le retranchement meurtrier et crépitant qui riposta alors en déversant un feu meurtrier sur nos troupes sans protection. L'artillerie des deux camps se joignit à la bataille, ponctuant le rugissement de la fusillade de sourdes explosions qui faisaient trembler la terre et déchirer l'air d'une tempête de shrapnel sifflant. Ceux de l'ennemi éclataient les arbres et les maculaient de sang, et les nôtres masquaient la fumée des fusils par des nuages de poussière arrachés des parapets. Mon attention avait été un moment attirée par le combat général, mais maintenant, abaissant mon regard vers l'espace dégagé qui se trouvait entre ces deux tempêtes, je vis Braille, la cause du carnage. Invisible maintenant pour les deux camps, et également menacé par le feu ami et ennemi, il se tenait debout dans l'espace ravagé par les balles, immobile, la face tournée vers l'ennemi. Un peu plus loin était étendu son cheval. Je vis clairement ce qui l'avait arrêté. En tant qu'ingénieur topographe, j'avais, plus tôt dans la journée, fait un examen rapide du terrain, et je me souvenais maintenant qu'à cet endroit se trouvait un profond ravin sinueux, traversant la moitié du champ de bataille depuis les lignes ennemies, avec lesquels il formait à peu près un angle droit. De là où nous nous trouvions, il était invisible, et Braille n'en avait évidemment pas eu connaissance. Il était clairement impassable. Ces angles saillants auraient offert au lieutenant une absolue sécurité s'il avait choisi de se satisfaire du miracle qui s'était déjà accompli en sa faveur et y avait bondi. Il ne pouvait aller de l'avant, il ne pouvait revenir en arrière. Il restait debout, attendant la mort. Il n'eut pas longtemps à attendre. Par quelque mystérieuse coïncidence, au moment même où il tomba, le feu cessa, et les derniers coups de fusil sporadiques, tirés à de longs intervalles, accentuaient le silence plutôt qu'ils ne le brisaient. C'était comme si les deux camps se repentaient soudainement de leurs crimes inutiles. Quatre de nos brancardiers, suivant un sergent porteur du drapeau blanc, s'engagèrent bientôt à découvert. Ils ne furent pas blessés et se dirigèrent droit vers le corps de Braille. Quelques officiers et soldats confédérés vinrent à leur rencontre et, ôtant leur couvre-chef, ils les aidèrent à soulever leur fardeau sacré. Tandis qu'on le ramenait vers nous, nous entendîmes derrière les lignes ennemies des fifres et un tambour étouffé, un hymne funèbre. Un ennemi généreux honorait le brave tombé au combat. Dans les effets du mort, il y avait un portefeuille en cuir de Russie souillé. Lors de la distribution des effets de notre ami, distribution dont le général était l'administrateur, cet objet me revint. Un an après la fin de la guerre, sur le chemin de la Californie, je l'ouvris et l'inspectai négligemment. D'un compartiment que je n'avais pas remarqué, tomba une lettre, sans enveloppe ni adresse. C'était une écriture de femme, et elle commençait par des mots d'amour, mais ne comportait pas de nom. Elle était datée du 9 juillet 1862, San Francisco, Californie, et elle était signée « chérie », entre guillemets. Incidemment, dans le corps de la lettre, le nom complet de l'expéditeur était mentionné « Marianne Mendenhall ». La lettre montrait d'évidence une bonne culture et une bonne éducation, mais c'était une lettre d'amour ordinaire, pour autant qu'une lettre d'amour puisse être ordinaire. Elle ne contenait pas grand-chose d'intéressant, mais je lus tout de même ceci. Mr. Winter, que je haïrais toujours pour cela, a raconté que lors d'une bataille en Virginie, là où il a reçu sa blessure, vous étiez caché derrière un arbre. Je pense qu'il cherche à salir l'image que j'ai de vous, et il sait bien que c'est ce qui arriverait si je le croyais. Je crois que je pourrais supporter d'apprendre la mort de mon soldat bien-aimé, mais pas sa couardise. Voilà les mots qui, par un après-midi ensoleillé, en une région lointaine, avaient tué une centaine d'hommes. Qui dira que les femmes sont faibles? Un soir, je rendis visite à Miss Mendenhall pour lui remettre la lettre. Je voulais aussi lui raconter ce qu'elle avait déclenché, mais sans lui dire quelle en avait été la cause. Je la trouvai dans une belle demeure sur Rincon Hill. Elle était belle, élégante, en un mot, charmante. « Vous connaissiez le lieutenant Braille, » dis-je, plutôt abruptement. « Vous savez sans doute qu'il est tombé au combat. Dans ses effets, une lettre de vous a été retrouvée. La raison de ma venue ici est de vous la remettre. » Elle prit machinalement la lettre, la regarda en rougissant, puis elle me dit en souriant, « Vous êtes bien bon, mais je suis sûr que cela n'en valait pas la peine. » Elle sursauta soudain et devint blanche. « Cette couleur, dit-elle, c'est... sûrement ce n'est pas... » « Madame, répondis-je, pardonnez-moi, mais c'est le sang du cœur le plus pur et le plus brave qui ait jamais battu. » Elle jeta précipitamment la lettre sur les braises brûlantes. « Oh, je ne peux supporter la vue du sang, dit-elle. Comment est-il mort ? Involontairement, je m'étais relevé pour sauver la feuille de papier, sacrée même pour moi, et je me tenais maintenant un peu derrière elle. En même temps qu'elle avait posé sa question, elle avait tourné son visage vers moi. La lumière de la lettre qui brûlait se reflétait dans ses yeux et donnait à sa joue un teint d'écarlate, comme la tache sur la lettre. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau que cette détestable créature. « Il a été mordu par un serpent, » répondis-je. «
Hooray, hooray, in Dixieland, the price dance it is.